Retour aux sources, Mathieu Vidard, vous êtes à Nantes pour La Tête au Carré.
Oui, ah oui, c'est vrai. Et on va parler de science-fiction et on va se poser une question très importante. Sommes-nous seuls, Laetitia, dans l'univers?
Je ne sais pas.
Tout à l'heure. La Tête au Carré, donc en direct aujourd'hui de Nantes, à l'occasion des Utopiales, le festival international de science-fiction. Nous sommes dans les studios de France Bleu, Loire-Océan, à quelques encablures de la Cité des Congrès, où se déroule le festival jusqu'au 3 novembre. Roland Lehoucq, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien au CEA et président des Utopiales. On est ravis de pouvoir enfin vous retrouver à Nantes pour cette nouvelle édition qui explore cette année les intelligences sous toutes leurs formes, les intelligences, qu'elles soient terriennes ou extraterrestres. Et justement, parmi les rendez-vous du festival, la question de la vie extraterrestre est au centre de l'exoconférence donnée par le professeur Alexandre Astier, qui est l'invité cet après-midi de La Tête au Carré. Alexandre Astier, bonjour.
Bonjour.
Après le Théâtre du Rond-Point, vous êtes à Nantes donc pour deux représentations de votre one-man show dans lequel vous vous intéressez donc à toutes les créatures susceptibles de s'inviter sur notre bonne vieille planète. Pour en parler, nous avons également convié Olivier Grasset. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur et directeur du laboratoire de planétologie et géodynamique à l'Université de Nantes et vous travaillez également avec l'ESA, l'Agence spatiale européenne, autour de la future mission planétaire vers Jupiter. Vous avez assisté hier soir à la représentation de l'exoconférence avec Roland Lehoucq. On va donc se retrouver dans un instant pour tenter évidemment d'apporter des réponses scientifiques à toutes ces questions au sujet de la vie extraterrestre, mais également pour évoquer les conditions d'habitabilité sur d'autres planètes pour nous, les terriens en mal de nouveaux territoires. Les auditeurs vont nous rejoindre avec les messages qui arrivent déjà en direct ici à Nantes sur franceinter.fr et puis également sur les réseaux avec le mot clé l'attaque. On terminera cette Tête au Carré nantaise avec le quiz scientifique en compagnie de Florence Porcel qui viendra même nous faire un petit coucou avant car elle participe aussi aux Utopiales. Céline Hila est aux commandes de cette émission et c'est Hugo Struna qui a préparé le dossier.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Everybody's talking avec Harry Nilsson à l'instant sur France Inter.
La tête au carré, jusqu'à 15h. Sur France Inter.
Et nous sommes à Nantes dans les studios de France Bleu Loire-Océan à l'occasion des Utopiales, le festival international de science-fiction. Vous avez une petite musique d'ambiance tout de suite pour vous mettre dans l'atmosphère de ce festival qui se déroule jusqu'au 3 novembre prochain à la Cité des Congrès. Mes invités, l'astrophysicien et président des Utopiales, donc Roland Lehoucq, l'exoconférencier Alexandre Astier et le planétologue Olivier Grasset. On parle donc de vie extraterrestre cet après-midi, de voyage dans l'espace, avec vos questions sur franceinter.fr et sur les réseaux avec Twitter. Et le mot-clé, l'attaque. Roland Lehoucq, vous avez donc décidé de nous rendre plus intelligents cette année. On vous en remercie d'ailleurs.
Je ne sais pas si les Utopiales vous rendront plus intelligents. En tout cas, elles vont discuter de cette thématique de l'intelligence. C'est quand même une thématique extrêmement importante pour les humains, évidemment, pour les... et en science-fiction aussi, à travers l'intelligence extraterrestre, bien sûr, l'intelligence artificielle. Et puis pour les humains, le cerveau, tout ce qu'il y a autour des études modernes maintenant, autour du cerveau, de l'imagerie médicale fonctionnelle, au travers de la simulation du cerveau et de la possibilité qui rejoint d'une certaine façon la science-fiction d'une intelligence artificielle.
Ouais. Donc c'est vraiment la science au milieu de la science-fiction. Là, pour le coup, vous assumez vraiment la cohabitation.
Absolument, hein. C'est la science au milieu de la science-fiction, parce qu'après tout, dans science-fiction, il y a science. Et la science-fiction, elle est née finalement d'auteurs qui étaient émerveillés par le progrès scientifique et technique de leur époque, au 19e siècle, on pense à Jules Verne ou à Herbert Wells ou à Rodney Henné, et la science qui est évidemment toujours présente dans la science-fiction.
Oui, alors il y a beaucoup de choses évidemment à la Cité des Congrès, hein, du cinéma, des tables rondes, des expositions, des jeux. Il y a tout le programme évidemment sur utopial.org. Et vous avez alors deux invités de marque, c'est Chris Voss et le robot Roméo, hein, c'est ça?
Exactement. Chris Voss qui est une légende de l'illustration de science-fiction, qui a fait un nombre considérable d'œuvres, dont certaines ont illustré pratiquement toutes les couvertures des collections de science-fiction des années 80, disons, 70-80.
Ouais.
Et le robot Roméo, qui est finalement le grand frère de Nao. Nao, qui est ce petit robot humanoïde qu'on avait accueilli aux Utopiales il y a 2 ans, avec un succès considérable. Et Roméo, c'est un robot humanoïde qui fait 1m50, qui fait 50 kilos et qui sera peut-être dans quelques années chez vous comme robot d'accompagnement, comme robot d'aide à la personne. Voilà, quelque chose de... C'est la deuxième sortie de Roméo de ces laboratoires d'expérimentation et de fabrication.
Donc c'est l'occasion de venir à Nantes pour faire sa connaissance. L'avenir est-il un combat entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle? Ça fait partie donc des sujets que vous allez aborder. Il y a beaucoup de conférences pendant ces journées.
Oui, il y a 110 tables rondes en fait et rencontres avec les auteurs les illustrateurs, donc c'est un programme sur quelques jours extrêmement dense. L'idée c'est que vraiment on sorte frustré, on n'a pas pu tout voir et on veut revenir, c'est un peu cruel pour les personnes qui viennent participer. Donc un programme très dense et qui vont aborder notamment les thèmes qui vont tourner autour de l'intelligence et des thèmes déclinés autour de l'intelligence, mais aussi tout un tas d'autres choses transversales à la science-fiction.
Ouais, lire de la science-fiction nous rend-il plus intelligent, par exemple? C'est une question que vous posez, vous, en tant qu'amateur, Roland Lehoucq?
Oui, alors je ne sais pas si ça rend plus intelligent, simplement la science-fiction pose des questions. Elle met la science en scène, finalement, et la science, elle est technique en scène, et elle essaie d'en envisager les conséquences sociales, les conséquences sur les humains. Et donc, elle pose de bonnes questions. Elle y apporte des réponses qui sont dépendantes de l'auteur, qui ne sont pas forcément des réponses auxquelles certains peuvent adhérer, qui ne sont pas forcément les réponses qui vont se produire effectivement dans nos sociétés. Mais elle pose des questions, et c'est la seule littérature, en fait, qui envisage cette interaction entre science technique et humain en un sens très large.
Ouais.
Et y compris les extra-humains, d'une certaine façon, même si on ne sait pas s'il y en a pour l'instant. Et donc, cette littérature est vraiment une littérature de réflexion aussi. C'est un laboratoire fictionnel, finalement.
Vous êtes amateur, Alexandre Astier, ou pas de littérature de science-fiction?
Pas spécialement de littérature, mais la science-fiction, elle est souvent en miroir de nous-mêmes. C'est une manière de nous regarder peut-être magnifier, perfectionner plus tard. C'est souvent assez utopique pour être...
Dans le thème de cette année et surtout dans le titre de ce rendez-vous. Est-ce que justement la littérature de science-fiction a souvent précédé au fond les questions que les scientifiques ont pu se poser ensuite?
Alors, je ne crois pas que la littérature de SF provoque des questions chez les scientifiques au sens un nouveau sujet de recherche qui s'ouvrirait grâce à une idée venant de la science-fiction. La science-fiction, c'est plutôt elle qui s'inspire de la science,
Mais là où elle est intéressante, c'est comme elle la met en scène et comme elle essaie d'en tirer des conséquences sur les humains, elle pose vraiment des questions sur ses progrès techniques. Et c'est là où elle est intéressante, comme finalement expérience de pensée sociale. Comme il y a des expériences de pensée scientifique. On pense à Galilée qui imagine laisser tomber depuis la tour de Pise un boulet de fer et un boulet de bois et se convaincant qu'ils vont arriver en même temps au sol. Ou Einstein qui se dit « Et si j'étais assis sur un rayon de lumière, que verrais-je ?» Et donc voilà, ces expériences de pensée qui sont très fécondes pour la science, eh bien la science-fiction, c'est une expérience de pensée sociale.
Mmh. Olivier Grasset, vous qui êtes planétologue, est-ce que les romans de science-fiction dans votre prime jeunesse vous ont emmené sur le chemin justement de la planétologie ?
Oui et non, je dirais que c'est par vague. Certains livres en particulier qui m'ont clairement donné envie de m'intéresser aux planètes et aux étoiles, j'ai beaucoup rêvé. Oh, j'ai principalement adoré les livres d'Ursula Le Guin dans mon adolescence, sur ce qui s'appelle La Ligue de tous les mondes. Cette capacité qu'elle avait à imaginer qu'un jour on pourrait s'aimer les planètes et communiquer entre nous. Bah aujourd'hui, on commence à envoyer des engins vers les planètes. On n'est pas prêt d'envoyer des hommes et de communiquer, mais bon, c'est un premier pas.
Premier contact, autre thème par exemple, Roland Le Houx. Premier contact, le cinéma peut-il nous y préparer ? Premier contact avec des vies extraterrestres.
Oui, c'est ça. Bon, c'est vrai que le cinéma est d'une certaine façon un peu simpliste parce que les extraterrestres intelligents que l'on voit au cinéma, ils ont souvent une forme humanoïde alors qu'il n'y a pas de raison a priori qu'une intelligence d'abord se développe à l'extérieur, on ne sait pas. Et deuxièmement, si une intelligence se développe en dehors de la Terre, est-ce qu'elle aura notre forme, une forme disons avec une tête, un corps et quatre membres accrochés au corps, est-ce que ça ressemblera à ça ou pas ? On n'en sait rien. Mmh. Après, les questions se posent. Comment reconnaître une espèce intelligente ? Quand vous voyez un être vivant, comment savoir s'il est intelligent ? Quand vous ne le voyez pas, c'est même encore pire, vous ne pouvez que dialoguer avec lui par des ondes radio, par la lumière ou par je ne sais quoi. Comment savoir qu'il est intelligent ? Tout ça, ça pose la question quand même de voilà, comment reconnaître une intelligence. Et ça, c'est un problème important parce que, rappelez-vous, par exemple, les conquistadors espagnols ou les colons anglais qui arrivent dans des pays nouveaux où on voit des êtres humains, qui sont maintenant considérés comme des êtres humains, mais qui à l'époque étaient considérés comme quoi, du gibier peut-être, ou des choses qui n'étaient pas tout à fait humaines, des êtres qui n'étaient pas humains. Mmh. Et donc, même les humains eux-mêmes ont eu du mal à se reconnaître finalement. Donc, la question finalement de la rencontre avec l'extraterrestre, c'est finalement, comme le disait tout à l'heure Alex, c'est à rebours sur nous-mêmes. On se pose des questions sur nous-mêmes et qu'est-ce qui nous fonde comme humains et qu'est-ce qui fait l'humain finalement. Et donc, par exemple, dans l'Utopia, on aura Pascal Pic, un paléoanthropologue, qui va venir nous aider peut-être à répondre ou en tout cas à donner quelques éléments de réponse à ces questions. Donc la science-fiction comme miroir finalement de notre humanité.
Utopial.org, tout le programme donc pour venir ici à la Cité des Congrès jusqu'au 3 novembre. Alexandre Astier, vous nous préparez finalement d'une certaine manière à ce premier dialogue peut-être un jour avec les vies extraterrestres dans l'exoconférence.
Mal, je vous prépare mal.
C'est vrai, pourquoi ?
Volontairement, non j'en sais rien. Mais c'est vrai que déjà c'est très difficile de savoir ce qu'on considère comme de l'intelligence, mais même ce serait difficile de savoir ce qu'on considère comme de la vie. À partir de quand est-ce que quelque chose est vivant pour nous ? Est-ce que la définition de la vie, elle est pas facile ? Est-ce que c'est ce qui se reproduit ? Est-ce que c'est ce qui respire ? Est-ce que c'est ce qui... Et de là à savoir si on pense ou si on pense pas, je sais pas. Qui c'est qui a dit ? Je pense que c'est Hawking qui a dit il y a peut-être de la vie, ça grouille peut-être de vie dans l'espace, mais est-ce qu'on serait capable de considérer que c'en est ? Est-ce qu'on la reconnaîtrait comme telle ?
Oui, il faut la reconnaître. C'est-à-dire que pour l'instant, en faute de mieux, on ne la verra que de loin, cette vie, si tant est qu'il y en ait à l'extérieur de la Terre, à part dans le système solaire, peut-être, mais ça, on en est encore loin de bon. Olivier nous en parlera plus en détail tout à l'heure. Mais donc, une vie sur une exoplanète, une planète qui tourne autour d'une autre étoile que le Soleil, on est loin de pouvoir s'y rendre. Dans le système solaire, on a peut-être une chance d'aller effectivement sur place, vérifier quelque chose. Loin du système solaire, ça va être très difficile et donc on ne la verra que de loin. Donc comment reconnaître, quels indices doit-on chercher pour se faire une opinion crédible, scientifiquement crédible, sur la présence de vie à l'extérieur ? C'est pas facile.
Olivier Grasset, est-ce qu'il y a encore des choses dans notre système solaire, donc c'est vraiment notre environnement immédiat, qu'on ne connaît pas encore, qu'on n'a pas trouvé, qu'on n'a pas découvert ?
Oui, bien évidemment. on est encore en phase d'exploration, comme on dit. Toujours dans la phase exploratoire où on essaye de comprendre un petit peu mieux les endroits qu'on cherche à comprendre, à étudier. Et pour l'instant, on voit juste des ondes qui nous donnent une idée de l'hostilité.
On se balade partout quand même maintenant.
Nous donne une idée. Le dernier exemple en date, un des plus célèbres, c'est quoi ? C'est Cassini, la sonde Cassini qui découvre des geysers sur le pôle sud d'Encélade. Ouais. On n'imaginait absolument pas. Voilà une zone active avec un océan en profondeur, sans aucun doute. Peut-être du vivant, on n'en est certainement pas encore à ce niveau-là, mais voilà, on était en train d'imaginer des astres complètement morts et complètement inintéressants, sauf pour les scientifiques, et qui deviennent très clairement des objets d'un intérêt extraordinaire pour toute je dirais, pour toute l'humanité. Parce que voilà, il y a peut-être du vivant là-bas et on est à 1,5 milliard de kilomètres de la Terre. On découvre tous les jours.
Oui.
Attendez le 12 novembre avec Rosetta, on va découvrir des choses.
Voilà, Rosetta et Philae qui va se poser donc sur cette comète. Ça va être un événement interplanétaire quand même. C'est vraiment quelque chose d'étonnant. C'est la première fois qu'on va se poser sur une comète. On sait assez peu de choses au fond de ces objets.
Extrêmement peu. Alors, sauf pour certains spécialistes, mais c'est vrai que c'est la première fois, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les images qui sortent, il faut aller voir les sites officiels parce qu'il y a un énorme effort de communication sur le sujet.
Ouais.
On découvre des images pour la première fois de ce que c'est qu'un noyau de comète, comme si on y était. C'est une première mondiale, peut-être interplanétaire sans aucun doute,
puisqu'on
est les seuls jusqu'à preuve du contraire. Mais c'est extraordinaire. On commence à comprendre qu'on avait bien évidemment, comme d'habitude, à peu près rien compris de ce que, c'est que ces objets-là.
L'exoconférence Alexandre Astier, c'est donc ce spectacle que vous présentez maintenant en tournée, après le théâtre du Rond-Point et avant l'Olympia. Ce sera en septembre 2015. Extrait.
Tout ça, c'est des galaxies. Et ce petit truc rouge, en haut, à droite, c'est une proto-galaxie. Une des premières petites briques de notre univers. Elle se trouve à plus de 13 milliards d'années-lumière de nous. Ce qui veut dire que la lumière que nous en recevons aujourd'hui, elle l'a émise il y a plus de 13 milliards d'années. Elle est tellement loin qu'il a fallu que le télescope Hubble fasse 111 orbites et expose la photo pendant 8 jours pour obtenir photon après photon cette espèce de vague paix rougeâtre, en fait constituée d'étoiles bleues, et considérée comme l'objet le plus lointain qu'on ait jamais observé et qu'on observera probablement jamais. Le fond du fond du fond de nos ténèbres, le bout du bout du bout d'un univers supposé. Et pour lui rendre hommage, savez-vous comment on l'a baptisé, ce témoin des premiers âges, cet écho désespéré? UDFJ 3954-6284. On dirait un numéro à taper sur son portable pour avoir une conversation coquine avec une femme mûre et décomplexée.
Voilà, ça fait partie de la poésie scientifique, ça, Alexandre Astier.
N'est-ce pas?
Un extrait donc de l'exoconférence. Qu'est-ce que c'est bien, en tout cas, cette idée? Vous faites œuvre utile quand même pour la science. Est-ce que vous en avez conscience, pour le coup?
J'essaye de ne pas dire de bêtises. J'irai pas dire jusqu'à faire œuvre utile. Non, je ne crois pas. Mais... c'est difficile de repérer le ridicule dans la science quand on n'est pas scientifique soi-même.
Ouais.
C'est chaud un peu, oui, parce que mon précédent spectacle, c'était sur Bach. J'ai une éducation musicale, académique, tout ça, donc je pouvais en parler naturellement. Là, il a fallu que j'aille pêcher les informations auprès de...
Ah, vous avez fait un vrai boulot d'étudiant, là, quasiment.
Hein. Auprès de M. Lehoux, qui est ici présent pour en témoigner. J'ai besoin d'informations, parce que je suis intéressé, mais alors loin d'être spécialiste.
Ouais. Mais amateur quand même très éclairé, parce que ça vous intéresse depuis très longtemps.
Depuis très longtemps et depuis toujours même, mais c'est vrai que c'est important d'avoir un pas en plus du public quand on écrit quelque chose. Enfin, en tout cas, c'est ma façon de faire. C'est-à-dire qu'il faut abandonner les fantasmes de monsieur tout le monde qu'on est soi-même avant d'écrire pour pouvoir faire un petit trajet et pour pouvoir proposer quelque chose d'un petit peu plus poussé. Et ça, effectivement, en l'occurrence, il n'y avait que les scientifiques et astrophysiciens pour venir me tenir par la main et me monter d'une marche.
Ouais. À quoi vous pensez quand vous parlez de fantasmes, alors exactement ?
Eh bien, sur la vie extraterrestre, par exemple, c'est vrai qu'on a besoin de... Je faisais partie tout de même, avant d'écrire ce spectacle, des gens qui pensaient que les visites étaient possibles ou qu'elles avaient pu exister. Et c'est vrai que c'est le point de vue physique et astrophysique des choses qui m'a fait un peu virer de bord et présenter les choses différemment. Donc je parle sur scène de quelque chose dont je n'aurais pas parlé de la même manière quelques temps avant.
Ouais. En tout cas, je dis que vous faites œuvre utile parce que d'abord, vous remplissez vos salles avec un public un peu plus jeune que la moyenne quand même du public des conférences scientifiques quand même. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Roland Louk.
Je suis d'accord.
Sans être désagréable, mais enfin quand même. Et ça, je trouve ça formidable parce que c'est l'occasion aussi de toucher un public qui n'est pas forcément habitué à ça.
Il est jeune, mais il est aussi... Il ne viendrait pas spontanément, ce public, à une conférence scientifique officielle, si j'ose dire.
Ouais, donc ça, c'est très important. Et puis, on apprend en s'amusant. Et ça aussi, c'est un excellent vecteur pour se cultiver et pour en savoir un peu plus.
Je ne sais pas si l'intention d'Alexandre Astier est d'apprendre, de nous faire apprendre. En tout cas, comme il dit des choses justes dedans, si tout ce qui est dit dedans est juste, si le spectateur retient ces choses, il aura appris des choses.
Voilà. Ouais.
Il ne vient peut-être pas pour apprendre, mais en passant, il était venu pour rigoler et... Clac, on lui a glissé un truc.
Mais alors, c'est intéressant parce qu'Alexandre Astier...
Non, c'est simplement ce que dit Coppola à propos de ses films. Il dit, si jamais on n'aime pas mes films, je mets toujours une recette de cuisine dedans. Parce que comme ça, les gens qui sortent ont au moins ça.
Ouais.
Et je pense que c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, ils peuvent ne pas aimer le spectacle, mais au moins, ils ont peut-être mis un petit doigt sur la relativité, les trucs comme ça qui ne sont pas... ouais. toujours su par monsieur tout le monde.
Roland Le Houx, vous qui êtes rompu à l'exercice de la conférence, comment vous avez jugé celle d'Alexandre Astier alors? Parce que vous en faites régulièrement des conférences.
Est-ce que vous voulez que je sorte?
Non, restez avec nous, ça va vous intéresser, je suis sûr.
Écoutez, du point de vue du fond scientifique, justement, il y a quasiment rien à redire. Je veux dire quasiment parce qu'on peut toujours évidemment pinailler, mais si on enlève le pinaillage, c'est ouais. impeccable. C'est ça qui est assez étonnant, c'est-à-dire c'est quand même un spectacle du divertissement où il n'y a pas une faute de science. Et ça n'empêche pas que c'est un divertissement. Et c'est ça qu'on peut trouver, que je trouve l'exercice intéressant. C'est-à-dire que dans un film de science-fiction, je prends les choses qui étaient plus... où il y a de la science dedans un peu par défaut. Ouais. Il y a des films de science-fiction où le prérequis pour que le film existe, c'est un point de science qui est faux. Soit, si le point de science est... si cette fausseté est indispensable à l'intrigue initiale, soit. Mais ensuite, dans l'intrigue elle-même, il y a des points de science qui sont faux et qui pourrait ne pas l'être sans rien changer à l'intrigue. Et là, je trouve que c'est plus dommage, parce qu'on pourrait faire un film, finalement, qui soit plus pertinent, sans rien changer à son intrigue. Si on prend, par exemple, Gravity, qui n'est pas un film de science-fiction, par ailleurs, mais Gravity, tous les points de science qui sont faux sont à chaque fois obligatoirement faux, si on veut que l'intrigue se passe comme le réalisateur l'a décidé. Et tout le reste, qui n'est pas indispensable à l'intrigue, de toute façon, est parfaitement juste. Mmh. Et donc là, dans le spectacle d'Astier, ce qui est intéressant, c'est que tout est juste, et on se divertit. C'est la preuve qu'on peut se marrer avec de la science.
Ouais. Olivier Grasset, alors, votre point de vue aussi sur cet exercice particulier que propose Alexandre Astier.
Je confirme, et puis bon, je fais aussi des conférences, donc de fait, j'ai regardé celle-là, j'ai écouté celle-là avec un très grand intérêt.
Ça donne
intérêt.
Un coup de vieux quand même, aux conférences. Alors, on en prend un sacré coup, ouais, là, pour la scénographie, il va falloir repasser.
Tout à fait, pour l'aspect du contenu, et voilà, c'est d'une justesse impeccable, ça balaye extrêmement large, on voit quand même du Big Bang, là, toute l'historique des soucoupes volantes, en passant par tous les problèmes, les probabilités de la vie et Copernic, un peu d'histoire des sciences au passage, impeccable. Et après, je me dis, sur une conférence réelle, la difficulté du non-spécialiste va être d'être capable de rebondir, parce qu'on balaye comme ça des sujets d'une extrême largesse, qui se promènent dans le temps de façon assez complexe. Et j'ai dit, ouais, faut que chacun arrive à se reconnecter au moment où il en a besoin. Mais par contre, je suis convaincu, comme tout le monde, d'abord, on sait... La personne sort amusée, est contente, et elle a obligatoirement appris quelque chose. Donc, résultat garanti.
Et malheureusement, les Nantais qui n'ont pas pris leur billet ne pourront pas venir ce soir, parce qu'il n'y a plus de place. Hein.
Non,
c'est complet.
Voilà. C'est une fausse bonne nouvelle, ou une vraie mauvaise.
Mais il y a une tournée qui arrive, l'Olympia, ça sera donc en septembre 2015. La première pour les Nantais s'est bien passée, donc Alexandre Astier.
Ah, très bien, quel accueil. Je touche du bois, parce que je suis superstitieux, j'espère que ce soir, ce ne sera pas moins que ça.
Vous êtes un scientifique contrarié ou pas?
Oui, je crois, oui. Je crois parce que je me suis rendu compte que dans l'écriture, qu'elle soit musicale ou de texte, je suis sensible au système, toujours. Et je recherche des systèmes d'écriture, je recherche des façons de faire, je recherche la systématisation de ce que je fabrique et la manière de comprendre pourquoi est-ce que... Sauf que c'est une matière un petit peu inaccessible et insaisissable. Pourquoi est-ce que les choses sortent? Pourquoi est-ce qu'elles marchent ou pas? Ça a l'air d'être de la magie. Et même des gens qui tiennent à ce que ça soit de la magie. Il faut surtout pas rationaliser le processus. Mais moi, je crois encore à ça. Donc, je pense que entre ça et le fait que je joue autant au Lego que mes enfants, et je pense que je suis un scientifique contrarié.
Alexandre Astier, l'exoconférence et les Utopiales, puisque nous sommes en direct de Nantes cet après-midi. Don't say that I never... Guitar. Forgive and Forget avec The Cooks sur France Inter dans La Tête au Carré, aujourd'hui en direct de Nantes à l'occasion des Utopiales.
La Tête au Carré, Mathieu Vidard.
Je passe l'antenne à Frank Joyce pour les infos régionales.
Pour commencer, une découverte pour le moins étonnante à Roswell. À l'origine de cette trouvaille, Mac Bretzel, notre invité du jour. Mac, dites-nous exactement ce que vous avez trouvé dans votre ranch.
J'ai trouvé des trucs qui viennent sûrement d'une autre planète. Ce qu'il y a chez moi, c'est vraiment bizarre. Ça ressemble à leur soucoupe volante, vous voyez quoi.
Depuis un mois, de nombreuses personnes déclarent avoir observé des choses curieuses dans le ciel. Mais si vous dites vrai, nous allons enfin savoir de quoi il s'agit.
Extrait du film Roswell, film de Jeremy Kagan, sorti en 1994 pour parler justement de Roswell. C'était en 1947 avec mes invités Alexandre Astier pour l'exoconférence ici à Nantes encore ce soir, Roland Lehoucq, le président des Utopiales, et Olivier Grasset qui est planétologue. Et vous connaissiez même pas ce film, Roland Lehoucq?
Non, enfin Roswell.
Qui doit être un grand film, j'imagine.
Il y a beaucoup
de dialogues,
ça a l'air de... Ça donne envie tout de suite, évidemment. Roswell, évidemment, on ne peut pas ne pas en parler dans un spectacle sur les vies extraterrestres. Alexandre Astier,
Ce serait difficile, oui, parce que ça fait quand même partie d'un des grands fantasmes collectifs. Il y en a même qui y tiennent beaucoup, il y en a même qui n'aiment pas bien qu'on touche à Roswell. Ça fait partie de... C'est comme une religion, un peu. Ça.
Faire attention à ce qu'on dit sur la question.
Non, en revanche, non, il ne faut pas faire attention. Enfin, il faut savoir qu'il y en a que ça peut irriter.
Voilà, il y a toujours sa part scientifique qui réagit.
Il a raison.
Ça, c'est bien. Roland Lehoucq, à partir de quand on commence à s'intéresser à l'idée, justement, des vies extraterrestres dans l'histoire des sciences? Si on peut parler de science à ce sujet-là.
Je ne pourrais pas vous dire la date de démarrage exacte, mais l'idée que on puisse, si on pense à Fontenelle au XVIIIe siècle, l'idée que la pluralité des mondes et des mondes habités, si même on remonte avant ça, alors attendez, j'essaie de remonter dans ma mémoire, à Giordano Bruno, évidemment, qui a été brûlé sur le Campo di Fiori.
Là, on est fin 16e.
1601. Ouais. Il a été brûlé en 1601. Et probablement, en remontant dans le passé encore plus en avant, on doit trouver énormément de possibilités, de gens qui ont imaginé la possibilité d'une vie en dehors de la Terre. Alors, on a commencé par la Lune, avec les Sélénites, évidemment. La Lune semblait suffisamment loin et suffisamment inaccessible pour pouvoir parler de choses qui s'y passaient sans crainte d'être contredit.
Ouais.
Et puis, quand on a été sur la Lune, en tout cas, quand on l'a connue suffisamment et maintenant que nous avons été, on les a bien empirés sur Mars. Et puis, maintenant, on les met dans les planètes lointaines. Alors, à chaque fois où on ne peut pas aller facilement, évidemment, les choses bizarres, c'est comme les explorateurs qui vous racontaient qu'il y avait des êtres humains qui avaient une trompe d'éléphant à la place du nez ou qui avaient un seul œil au milieu du front. Évidemment, ça se passait toujours dans des contrées lointaines où personne n'avait jamais été, à part vous, bien sûr, qui étiez le grand explorateur. Donc, les extraterrestres sont de plus en plus loin de la Terre au fil de notre exploration de la Terre, bien sûr, et du système solaire.
Oui. Olivier Grasset, quand on parle du paradoxe de Fermi, on parle de quoi alors exactement ?
Ah, ça c'est une sacrée question.
Ouais.
Assez vaste.
Puisqu'on parle de ces vies extraterrestres.
Oui, ben, quand on parle du paradoxe de Fermi, on parle de ce très sérieux problème, très bien abordé d'ailleurs dans votre conférence, sur pourquoi diable est-ce qu'on n'a toujours pas été mis en contact avec des extraterrestres, alors que nous on est là depuis pas si longtemps que ça, et qu'il doit y en avoir tellement autour de nous, qui sont là depuis tellement longtemps, que ça fait bien longtemps, ça fait déjà un sacré paquet de siècles qu'ils auraient dû nous contacter. Extrêmement compliqué. Très honnêtement, je n'ai jamais compris pourquoi on parlait réellement de paradoxe. C'est-à-dire que le paradoxe lui-même, je ne le vois pas. Moi, je préfère aborder la question assez mathématiquement, c'est moins poétique, mais en allant sur le côté de la formule de Drake et d'une façon de quantifier les choses en essayant de calculer quelque part.
Et c'est quoi la formule de Drake
Une tentative de calcul, en fait.
D'ailleurs, elle est un peu issue du paradoxe de Fermi. Elle lui fait suite. C'est quelqu'un qui essaye de computer les chances, les statistiques qui est que la vie existe autour de nous, en gros, c'est ça?
Alors, en fait, c'est ça. Et dans le détail, c'est essayer d'estimer la quantité de civilisations qui peuvent communiquer avec la Terre au niveau de notre propre galaxie. Et en gros, c'est un calcul très simple qui est une multiplication de facteurs de probabilité qui vont être du genre combien il y a d'étoiles qui ont des planètes, combien il y a de planètes qui sont habitables, combien il y a de planètes habitables qui ont de la vie, combien de ces planètes qui ont de la vie intelligente, ce qui nous ramène aux utopiales. Et c'est édifiant parce que le nombre va de 1 à l'infini. Encore aujourd'hui, selon qu'on est c'est jamais zéro, contrairement à ce qu'on croit, parce qu'on est là pour en parler, donc c'est au moins 1. et ça va de 1 à l'infini, selon qu'on est un éternel pessimiste ou extrêmement optimiste. Ouais. Mais ce nombre commence à se contraindre. Les exoplanètes sont là pour donner, par exemple, aujourd'hui qu'on en connaît presque 2000, sont là pour donner des contraintes sur certains de ces paramètres. Et moi, je pense qu'un jour, on fera des nombres pourrés, on pourra mettre des nombres concrets sur la formule de Drake et ce sera une partie de la réponse au paradoxe de Fermi.
Alex sur franceinter.fr nous dit ceci, la civilisation humaine n'est-elle pas jeune au regard de son emplacement dans l'univers? Les civilisations âgées, si elles existent, pourraient-elles rester indétectables par nos moyens actuels? Ça c'est encore une bonne question effectivement sur cette...
L'humanité a, disons, 4 millions d'années, Homo sapiens encore beaucoup moins, parce que quelques dizaines de milliers d'années. 4 millions d'années, l'âge de la Terre c'est plutôt 4 milliards d'années, 4,56 milliards d'années, donc l'humanité elle est 1000 fois moins âgée si j'ose dire, elle était présente sur la Terre 1000 fois moins que l'âge de la Terre.
Ouais.
La Terre a 4,56 milliards d'années, l'univers a 13,8 milliards d'années, voilà, il y a encore un facteur 3 pratiquement là, donc du coup effectivement nous on n'est pas là depuis très longtemps. Est-ce qu'on durera longtemps? On sait que les civilisations sont mortelles, on sait aussi que les espèces disparaissent, d'autres espèces apparaissent sous les coups, si j'ose dire, ou régies par l'évolution, et par l'évolution notamment des contraintes environnementales. L'humanité, combien de temps va-t-elle rester sur Terre? On n'en sait rien.
C'est un paramètre de l'équation de Drake, il propose un temps à notre civilisation.
Il se peut qu'elle s'extermine, qu'elle s'auto-extermine dans les siècles qui viennent,
combien?
Ça change régulièrement.
Ça dépend de l'optimiste ou pessimiste.
10 000 ans ?
Non.
C'est pas ça ?
Non, franchement, je ne l'ai pas en tête. Je ne me rappelle pas.
En tout cas, ça dépend de votre optimisme ou pessimisme. Et donc, une des réponses au paradoxe entre guillemets de Fermi, c'est de dire toute civilisation suffisamment évoluée finit par s'autodétruire. Et donc, avant qu'elle ait le temps d'acquérir la capacité à faire du voyage interstellaire, elle est autodétruite. Voilà, c'est une façon de répondre, alors qu'il faut ce qu'elle vaut, au paradoxe de Fermi.
Lucie nous dit ceci toujours sur franceinter.fr. Et si d'autres lois de la physique étaient différentes dans d'autres univers, est-ce que ça pourrait favoriser des formes de vie ou l'empêcher?
Alors,
bigre.
Alexandre Astier, vous nous répondez.
Non, on parlait dans le spectacle, on parle un peu de l'isotropie de notre univers, en tout cas, qui a l'air d'être à peu près pareil partout. Et en tout cas, ces petites modifications n'ont pas l'air de changer les lois de la physique, a priori, dans notre univers, en tout cas, aussi loin qu'on puisse le voir. Mais alors, après, dans un autre univers... Et on est vraiment en train de répondre à une question d'un truc qui se passe dans un autre univers, là.
Les multivers.
Je vais laisser mes collègues le faire.
On a peur de rien. Hein.
Oui, parce que le problème des autres univers, si on parle juste du problème des autres univers, il y a, bon, pour être un peu raide, si j'ose dire, mais il y aurait pour être un peu raide, il y a deux solutions, quoi. Soit ces autres univers, vous pouvez communiquer avec, auquel cas, ce n'est pas un autre univers, c'est votre univers, qui s'appelle l'univers, en fait, observable, l'ensemble des choses avec lesquelles vous pouvez échanger de l'information ou dont vous recevez de l'information. Et si cet autre univers, vous ne pouvez pas communiquer avec, alors ce n'est plus de la science. C'est-à-dire que comme vous n'avez aucun moyen d'investigation sur eux, aucun moyen d'avoir de l'information sur eux, on peut toujours en parler. On a le droit de parler, mais ça s'appelle de la poésie ou ce que vous voulez. Ce n'est plus de la science. Donc, ça ne peut pas être dans un autre univers. Alors, dans notre univers, est-ce que la physique sont les mêmes partout? On a longtemps pensé que non, si on prend Aristote, lui pensait qu'en gros, en dessous de la Lune, il y avait un certain nombre de lois qui régissaient le monde, qui étaient régies par les quatre éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu, et qu'au-delà de la Lune, c'était un cinquième élément qui s'appelle la quintessence qui réglait tout ça, pour faire court. Et puis depuis Galilée, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa lunette, il la pointe vers la Lune. Il constate que la Lune a des montagnes. Avant, on pensait que la Lune était parfaitement sphérique et parfaitement lisse.
Il met le bazar déjà.
Il voit qu'il y a des montagnes. Ça a l'air de rien. Mais ça veut dire que la Lune, elle ressemble à la Terre. Et que si la Lune ressemble à la Terre parce qu'elle a des montagnes, alors, en comprenant la Terre, je peux comprendre la Lune. Mmh. Et d'une certaine façon, en comprenant ce qui se passe sur Terre, ici et maintenant, je peux comprendre ce qui se passe dans le ciel. Et donc ça commence à démarrer une routine ou un processus intellectuel qui fait qu'on comprend l'univers en comprenant ce qui se passe sur Terre et on fait l'hypothèse que les lois de la Terre sont valables en tout instant de l'espace et du temps de l'univers observable. Ce qui est une hypothèse qu'on essaie évidemment, comme toute science, de vérifier par des observations adéquates.
Alexandre Astier, dans l'exoconférence, un peu d'histoire des sciences aussi, avec quelques personnages célèbres, un inquisiteur et Copernic sur scène, qui est un des moments les plus drôles du spectacle. D'ailleurs, je trouve, moi j'ai beaucoup aimé ce moment-là.
Il est possible que ce soit Pi 3, mais je suis pas sûr. Tout cas, ça peut être un pote à lui. Mais c'est une, donc la Terre ronde, ça c'était à peu près admis. Hein. On est d'accord que c'était ça collait. Par contre, la Terre au centre de l'univers, ça a posé plus de problèmes.
Ouais.
Comme plus tard pour Giordano Bruno d'ailleurs. Qui a été brûlé. Donc j'ai imaginé une petite conversation entre Copernic et un inquisiteur.
Voilà, et c'est très drôle, évidemment, sur cette.
Oui, elle est très drôle. C'est très drôle.
Alors, il y a un autre moment très amusant dans le spectacle, c'est autour de la sonde Pioneer et surtout de la fameuse et célèbre plaque qui a été installée à l'intérieur de la sonde. Et alors là, j'étais aussi très très content parce que c'est vrai qu'on s'est toujours posé cette question en voyant cette fameuse plaque. Comment des extraterrestres pourraient comprendre ce qui est inscrit dessus? Puisque nous-mêmes, on a bien du mal à savoir de quoi on parle. Hein.
Et nous, on a du mal à la comprendre, monsieur tout le monde de toute façon, mais ça lui est pas destiné. Même les scientifiques à l'époque, à qui on a envoyé cette fameuse plaque à titre de test, se sont révélés bien incapables de savoir de quoi il s'agissait.
Extrait de l'exoconférence.
Moi, ce qui me gêne le plus, je vais vous dire, c'est la flèche qui représente le trajet de la sonde. Effectivement, en mars 72, elle quitte Cap Canaveral. Juillet 72, elle traverse la ceinture d'astéroïdes. Et en décembre 73, elle utilise la force d'attraction de Jupiter pour effectuer ce qu'on appelle un swing et s'élancer vers la sortie en direction d'Aldébaran, une étoile située à 65 années-lumière de nous. En admettant que quelqu'un sur Aldébaran l'intercepte, je ne vois pas l'intérêt de lui faire un topo sur les 18 premiers mois d'un trajet de 2 millions d'années. C'est aussi débile que de faire Lyon-Pékin à pied, 9000 bornes, arriver à Pékin, prendre un type dans la rue et lui dire « Bon, ben, je suis sorti de mon garage, j'ai contourné la poubelle, j'ai tourné à gauche en passant devant le gymnase Alain Mimoun, et hop, me voilà !»
Et c'est très sensé, cette remarque, finalement, Alexandre Astier. Hein.
Ah bah, c'est pas moi qui faut demander.
On l'a gravé sur la plaque.
Ah, c'est gravé dans l'or, même.
C'est sensé, mais c'est la seule chose qu'on savait.
Voilà.
C'est-à-dire qu'effectivement, dans le cadre, c'est ça tout à fait sensé, et c'est ça qui fait ce décalage et cette drôlerie. En même temps, c'est les gens qui ont envoyé Pioneer, la seule chose qu'ils savaient, c'est le début du trajet. Après, c'était l'inconnu. Ouais. On a envoyé cette sonde dans l'inconnu, littéralement. Donc, comment raconter à l'arrivée ce qu'on a vu dans un endroit qu'on ne connaît pas? Voilà, c'est toute la difficulté.
Ouais, c'est le running gag, en tout cas, du spectacle, cette plaque qui, décidément, vous a beaucoup inspiré. François, d'ailleurs, à ce sujet, sur franceinter.fr, nous dit ceci. N'est-ce pas une imprudence si les plaques informatives tombent entre les mains d'extraterrestres tueurs en série ou prédateurs sexuels? Puisqu'ils ont notre adresse, pour le coup, pour leur trouver.
Moi, je pense que, dans le cas des prédateurs sexuels, la représentation humaine de la plaque est tout à fait de nature à les refroidir.
Parce qu'on voit un homme et une femme nus sur cette plaque. Bon, ils sont pas mal foutus quand même.
Ils sont pas mal foutus, mais madame n'a pas de vulve.
Oui, c'est vrai.
C'est très pudique. Je pense que Carl Sagan, à l'époque, a eu des soucis pour mettre... Oui. Donc, en fait, elle a l'air un peu bizarre aux côtés de son...
C'est vrai. Ouais. Et vous vous êtes amusé à imaginer d'autres positions sur ces...
Tout est-ce à que fait. Ça pourrait représenter... Il y a des tas de choses qu'on n'a pas dites non plus. Vous savez qu'à l'époque, ils ont pensé à les mettre main dans la main pour matérialiser leur union, mais ils ont eu peur que les extraterrestres comprennent que ça n'était qu'une seule et même
entité, en fait. Ouais, oui, voilà. C'est ça. Un seul être.
C'est compliqué, vous voyez. C'est-à-dire, quand on doit se mettre à la place.
Des extraterrestres.
D'un extraterrestre, dont on ne sait rien, évidemment, dont on ne sait même pas s'ils existent, et dont on ne sait rien, ils ont forcément un cerveau, une vision du monde qui est radicalement différente de la nôtre.
Ouais.
C'est compliqué. Il faut se dire, il faut imaginer tout ce qu'ils pourraient imaginer. Mais on l'imagine toujours d'un point de vue humain et pas jamais du point de vue des...
Oui, voilà, c'est anthropocentrique, parce qu'en fait, qui dit que c'est pas carrément ce qui est à côté qu'ils vont prendre pour l'espèce en question, les pulsars ou les petites étoiles, enfin c'est... Voilà, c'est encore...
C'est une drôle d'initiative. Oui. Marie nous dit ceci, les sondes pionnières avec leurs plaques ne sont-elles pas d'abord un rêve de terrien, comme si on lançait une sorte de bouteille à la mer, hein?
Mais bien sûr, c'est même dit dans le spectacle. C'est un rêve de terrien. Encore une fois, elle est censée atteindre les environs d'Aldébaran dans 2 millions d'années. Donc déjà, ça a été envoyé par des gens qui ne comptaient pas recevoir d'informations eux-mêmes, déjà. Ni les enfants, ni les petits-enfants. Donc,
Allez, Alexandre Astier, dernier extrait de l'exoconférence.
Il faut bien comprendre que la vitesse de la lumière... est une constante. Il se trouve que c'est la vitesse à laquelle va la lumière dans le vide. Mais c'est une limite fondamentale. Il n'y a que la lumière qui va à la vitesse de la lumière. Un objet à la vitesse de la lumière. Déjà, il faudrait répartir l'accélération sur combien d'années pour que les jets soient supportables à l'intérieur de l'appareil. Comme ça, à la vitesse lumière, hop, boum! Mais le type à l'intérieur du cockpit, il passe directement du compte à rebours à l'état gazeux.
1-0 ignition.
Ah, on a perdu Jean-Mi. Ah, merde.
Et voilà, ça c'est une vraie question aussi, Roland Lehoucq, hein, qui vous intéresse beaucoup.
Hein. Ah oui, oui, évidemment.
C'est comment on se déplace à la vitesse de la lumière.
C'est tout à fait juste, c'est super. D'ailleurs, dire que la vitesse de la lumière est une constante,
ouais.
Elle cherchait ça dans un spectacle de divertissement.
Ouais.
Parce que c'est vrai.
Ouais.
La vitesse de lumière prend la même valeur, quel que soit l'état de mouvement de l'observateur qui la mesure. Et c'est un fondement de la relativité restreinte d'Einstein. Et évidemment, la vitesse de lumière, vue comme une limite indépassable, pose problème quand on espère faire des voyages interstellaires. On ne réussira pas à dépasser cette vitesse. Et il faut 4 ans et demi à la lumière pour venir de l'étoile la plus proche.
Ouais.
Là où elle met du Soleil, elle met 499 secondes, 500 secondes. De la Lune, une seconde.
Ouais.
Donc les distances sont considérables et tout de suite, ça donne une idée de l'immensité qui nous sépare des étoiles et donc de la difficulté qu'il y aura à franchir ces
immensités. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait inventer pour y parvenir quand même en tant qu'être humain, hein? Parce qu'on n'en parle pas des sondes ou des machines.
Humain vivant dans une machine qui va jusqu'à l'étoile, ça va être compliqué. C'est déjà compliqué d'envoyer des humains sur Mars et de les renvoyer sur la Lune.
Ah ben tiens, justement, on en parlera avec Florence Porcel dans un instant.
Alors, envoyer des humains... Bon, alors, on pourrait imaginer des sondes. On sait envoyer des robots, on pourrait envoyer des sondes. Et donc leur faire supporter, parce que ce sont des machines, et donc des machines qui seraient structurées de la bonne façon, des accélérations bien plus grandes que ne peuvent supporter des humains. C'est ça peut-être notre espoir dans un avenir pas très proche, mais quand même, d'envoyer des sondes interstellaires. C'est pas fait, c'est pas encore fait du tout.
Olivier Grasset, vous êtes co-responsable de l'équipe scientifique d'une mission d'exploration des lunes de Jupiter, dont le nom est JUICE. Quel est l'objectif exact de cette mission ?
Il y en a deux, exactement, si on fait très court. Il y en a un qui est d'explorer l'habitabilité, justement, des lunes. On ne parle pas des vies comme les nôtres, on parle des vies microbiennes et qui pourraient exister dans les océans, des lunes gelées, les fameuses lunes de Galilée. Et donc, on va se mettre en orbite autour de la plus grosse de ces lunes, qui s'appelle Ganymède. Et l'autre objectif, c'est d'explorer la totalité du système. La sonde va tourner 3 ans dans le système. L'idée, c'est que Jupiter, sa magnétosphère, tout ça, c'est un mini-système solaire. Mmh. On a 3 ans pour comprendre comment ça marche.
D'accord. Avant de l'envoyer, donc, ce sera pour quand le top départ ?
On part en 2022, on arrive en 2030, on n'est pas encore en voyage interstellaire. Ah oui. Il faut déjà 7 ans pour aller à Jupiter. Voyager a fait plus vite, mais il ne s'arrêtait pas. Si on veut s'arrêter, il faut y aller doucement.
Bah non, il faut faire gaffe à ce qu'on mange, il faut faire un peu de sport, il faut être encore là en 2030.
Bah c'est le problème des scientifiques qui bossent sur les sondes. Il faut un temps fou, quoi.
Et de fait, on travaille avec des gens qui seront.
Le type qui a travaillé sur Rosetta, il est déjà à la retraite. Hein, la personne qui a imaginé Rosetta au départ, cette mission.
Tout à fait, j'allais dire le bel exemple. Enfin, les deux exemples actuels, dès qu'on va dans le système externe, c'est Rosetta Cassini, où les gens qui ont conçu les missions sont des gens qui sont à la retraite depuis belle lurette.
Alexandre Astier, l'exoconférence donc à nouveau ce soir à Nantes, puis ensuite vous partez en tournée dans toute la France.
Un petit peu, oui.
Voilà, quelques dates, jusqu'à l'Olympia donc en septembre 2015.
Oui.
Et puis continuez à nous faire des conférences scientifiques comme ça, parce que c'est quand même très très bon. Et puis Florence Porcel qui nous a rejoint, parce que Florence est également à Nantes, elle sera avec nous dans le quiz dans quelques minutes, mais elle est également à la Cité des Congrès pour parler aux Utopiales du voyage sur Mars.
Oui.
Puisqu'on rappelle que vous faites partie des candidats retenus pour l'instant pour Mars One.
Oui, pour l'instant des finalistes.
Mais c'est ça. Combien vous êtes alors exactement ?
On est 705 encore.
Il en reste 705.
Ouais.
Et donc là, c'est en quoi ça consiste, les prochaines étapes?
On attend nos convocations pour les entretiens avec Marswan, en anglais.
Très bien.
Voilà.
Bon, ben on vous souhaite bonne chance, Florence.
Merci, Mathieu.
Donc vous serez à 16h demain pour en parler.
16h demain pour en parler.
À la Cité des Congrès. Merci.
Ça dit toujours de ne pas revenir, on est d'accord?
Ah ben oui.
On est d'accord.
C'est un ticket simple.
Ouais, d'accord.
C'est un drôle de truc. Hein.
Ouais.
Bon. Merci, Roland Lehoucq.
Bah,
bon
plaisir,
festival, Monsieur le Président.
Merci.
Merci beaucoup à vous, Olivier Grasset. Et dans un instant, le quiz de la Tête au Carré.
Fréquentant ce garçon, jeune fille habilement écorchée comme ses vêtements. Après ses rendez-vous galants, pense à sa reconversion. Un suçon dans le cou, épaules tournées vers la joue. Bébé requin n'a pas peur des profondeurs de l'océan. Jeune fille acharnement, charmante comme un armement. Rire à ton nom sur le sol en souriant de toutes ses dents. Lorsqu'on lui pose gentiment, ne répond pas aux questions. Jeune fille, habilement, au cœur de la discussion. La nicotine et la menthe, dans un silence de plomb. Un frisson dans le dos, cheveux collés sur la peau. Bouche vermille, on n'a pas peur quand il s'agit de passion. Jeune fille, acharnement, charmante comme un armement. Rire à ton nom sur son carnet, en souriant de c'est dans
Jeune fille garnement, c'est Yael sur France Inter. Des questions de la science et des cadeaux, c'est le quiz de la Tête au Carré. Bonjour Florence.
Bonjour
Porcel.
Mathieu.
On joue avec deux nouveaux candidats bien sûr.
Mais oui, bonjour et bienvenue Justine et Thomas.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous les deux. Justine, vous habitez à Nancy en Meurthe-et-Moselle.
C'est ça.
Et vous êtes post-doctorante en sciences de la Terre. Vers quoi vous vous dirigez exactement?
J'aurais aimé me diriger vers la recherche publique, mais l'État est un petit peu désastreux en ce moment, donc on verra.
Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous envisagez de faire en tous les cas?
Je ne sais pas, je vais voir un peu comment se déroule mon post-doctorat pour voir pour la suite.
Bon, bah en tout cas, je vous souhaite bon courage. Face à vous, donc, merci. Se trouve Thomas qui lui est à Lille. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Et
bonjour,
vous êtes informaticien.
C'est ça, tout à fait.
Voilà, dans un domaine précis
Je suis administrateur système, en fait, sur le système Unix, en fait. Très bien, on va jouer donc ensemble avec des cadeaux bien sûr à offrir à l'un de vous deux.
Mais oui, au gagnant, la boîte de jeu La Tête au Carré et un livre Safari dans la bouse des éditions de Lachaud et Niesley. Bonne chance à tous les deux.
Justine et Thomas, si vous êtes prêts, nous démarrons avec la question d'actualité. Avec une publication récente de scientifiques qui ont découvert qu'une espèce de lézard de Floride avait évolué très rapidement à cause d'une espèce voisine invasive. De quel pays proviennent les lézards qui ont forcé ceux de Floride à s'adapter à leur présence? Vous avez 30 secondes pour me donner la bonne réponse. Alors,
De Cuba.
Exactement, mais alors comment ils sont arrivés en Floride, Florence, en faisant un peu de nage
ou... Oui, c'est ça, à la nage, non,
Par bateau, certainement.
Voilà, oui, les annoles verts de Floride, qui sont ces sortes de petits lézards, ont dû effectivement s'adapter rapidement à l'arrivée des annoles bruns en provenance de Cuba. En 15 ans, soit 20 générations, ils ont développé des doigts plus larges, des ventouses plus collantes et des griffes plus longues pour pouvoir grimper plus haut et ainsi échapper aux annoles bruns qui mangent leurs petits.
Voilà, et donc c'est une bonne réponse de Thomas.
Qui a été un peu plus rapide.
Voilà, et effectivement, un exemple d'évolution à vitesse ultra rapide, hein, Florence. Oui. Allez, les questions de rapidité, Justine, tout est possible encore pour battre Thomas. Oui. Vous avez 7 questions que je vous propose et 1 minute 30 pour y répondre. Le chrono est parti. Première question, quel chiffre écrit-on en exposant lorsqu'on indique le cube d'un nombre ?
Le 3.
Le 3, Justine. Quel instrument permet d'obtenir une image agrandie d'objets de très petite dimension ? Ben oui, tout simplement. C'est une bonne réponse de Justine. Quel type d'astre fusionne de l'hydrogène ?
Les étoiles.
Les étoiles, Justine, bravo. Par quel insecte Napoléon a-t-il remplacé les fleurs de lys qui étaient l'emblème de la royauté ?
Les abeilles.
Les abeilles, Justine. Oh là là, très bonne candidate. À quelle espèce l'arbre remarquable de Roquebrune Cap Martin, considéré comme l'un des plus vieux du monde, appartient-il ?
Le séquoia ?
Non. Thomas, allez, une idée, un arbre remarquable qu'on trouve donc dans le sud de la France, dans les Alpes-Maritimes, ça vous fait penser à quoi ?
Le pain parasol ?
Non. Allez, Non. Allez, sixième question, comment appelle-t-on le trouble d'origine neurobiologique caractérisé par un temps de sommeil excessif ?
Narcolepsie,
Thomas, c'est une bonne réponse. Quel humaniste suisse, premier prix Nobel de la paix et fondateur de la Croix-Rouge, est mort il y a 104 ans aujourd'hui ? Il faut connaître son nom. Hein. C'est la dernière question, c'est la plus compliquée. Alors, le créateur de la Croix-Rouge, est-ce que ça vous dit quelque chose ? On peut revenir à la cinquième question. Oui. À quelle espèce provient justement cet arbre remarquable de Roquebrune Cap Martin, considéré comme l'un des plus vieux du monde ?
C'était un olivier.
Et voilà, il fallait penser au sud de la France. Il a plus de 2000 ans.
Il a plus de 2000 ans, oui. Il a une circonférence de 16 mètres et une hauteur de 13 mètres.
Ça aurait pu être un séquoia, effectivement. Mais non, mais c'est un olivier. Et puis ce fondateur de la Croix-Rouge qu'il fallait vraiment connaître.
Oui, il s'agit d'Henri Dunant. Voilà, premier prix Nobel de la paix avec Frédéric Passy en 1901. Et il a fondé la Croix-Rouge en 1876 à Genève.
Voilà, on était très très bien partis. Alors là, Justine qui partait vraiment comme une fusée sur les premières réponses. Alors, on fait un total des points, je pense que c'est Justine qui a pris de l'avance.
C'est Justine qui a eu une petite avance avec 20 points en tout et Thomas avec 15 points.
Le mot mystère pour vous départager, nous vous avons donné ce mot juste avant de commencer le jeu ensemble. Je crois que c'est Justine qui aura les honneurs de commencer.
Oui, commençons par Justine.
D'accord. 45 secondes pour faire deviner donc votre mot à Thomas. C'est parti.
Alors, ça concerne la biologie des espèces et c'est une stratégie ou un mécanisme de défense pour une espèce qui va tendre à ressembler par exemple à une autre espèce ou à un élément de l'environnement comme une feuille ou une branche.
Mimétisme.
Et voilà, tout simplement, Thomas, le mimétisme de Justine qui vous rapporte 10 points.
10 points de plus.
Thomas, c'est à vous maintenant. Est-ce que le mot que vous avez sous les yeux vous inspire ?
Écoutez, je vais...
On vous offre 45 secondes. Ouais, c'est parti.
D'accord. Alors, c'est une contraction de deux mots anglais. Et donc, ça désigne en fait un lieu ouvert au public où on met à sa disposition en fait, toutes sortes d'outils pour la conception et la réalisation d'objets.
Un open space ?
Non. C'est un lieu, c'est assez récent. Le terme est assez récent en tout cas. Ouais. On peut y trouver des imprimantes 3D par exemple. On peut découper les choses au laser.
On y fabrique des choses.
C'est une sorte de petite usine ouverte au public. On en trouve maintenant dans certains musées.
Factory.
Oui. Pensez à Factory, effectivement.
Factory.
Justine, vous l'avez sur le bout de la langue.
Un atelier.
C'est pas Design Factory ?
Non, vous avez, fallait le mettre dans l'autre sens. Fallait commencer par Factory, donc par Fab Lab.
Fab Lab, c'était un Fab Lab.
D'accord.
C'est un peu compliqué.
Oui. Il y en a 50 en activité en France actuellement. Et c'est une activité qui se tend à se développer.
Qui se développe, oui. Ouais. C'est, voilà, pour fabriquer et des concevoir objets. Des objets et ensuite les mettre en ligne.
Voilà, le Fab Lab ne vous a pas inspiré, Justine. Alors, ça donne quoi au niveau des points, du coup, Florence ?
Du coup, c'est Thomas qui remporte le jeu avec 25 points contre 20 pour Justine. C'était quand même serré. Mais toutes nos félicitations, Thomas. Du coup, vous repartez avec la boîte de jeu de la tête au carré, 300 questions de science, dans 6 domaines différents pour jouer avec vos amis.
Et c'est sorti aux éditions Marabout.
C'est aux éditions Marabout, avec le petit livre Safari dans la bouse des éditions Delachaux et Niesley. Voilà.
Merci beaucoup.
Bravo à vous. On vous envoie donc tous ces cadeaux à Lille, Thomas. Et puis Justine, bonne continuation avec votre doctorat à Nancy. À bientôt.
Salut.
Au revoir.
Au revoir.